Bonjour tout le monde, ici Catherine Ferland. Bienvenue à cette émission de Tu parles d'une histoire, la première de l'année 2014. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes en famille, entre amis. C'est toujours un moment agréable à passer, il faut prendre le temps de le faire, c'est important. Comme on le dit si bien, ça revient juste une fois par année. Alors, cette semaine, on a une très belle émission. Vous savez qu'il y a le Carnaval de Québec qui commence vraiment sérieusement à s'installer dans la ville. On le voit, on en entend parler dans les médias et tout ça. Ça se met en place tout à fait prêt pour le mois de février qui s'en vient. Alors, pour cette semaine, justement, on va en parler avec l'historien Jean Provencher, qui est l'auteur d'un livre sur le Carnaval, un livre qui a été publié il y a déjà quelques années, mais M. Provencher est certainement une des meilleures ressources pour venir nous jaser de cet événement festif annuel qui revient depuis déjà plusieurs décennies dans la ville de Québec. Et je reçois aussi celle qu'on surnomme la reine-mère de la revengeance des duchesses, Marjorie Champagne. Mais d'abord, comme à l'habitude, vos actualités historiques. On va débuter avec une conférence qui aura lieu le mardi 7 janvier à 19h30 à Montréal avec l'historien bien connu Jacques Lacourcière et le conteur Francis Desilets. C'est une conférence qui est sur le thème de la galette des rois, légende et tradition. Alors, il va être question de l'épiphanie et de la tradition de la galette des rois qui se déguste ce jour-là. Donc, comme vous le savez peut-être, l'épiphanie, c'est une fête qui commémore à la fois l'enfant Dieu et l'adoration des rois mages, Gaspard, Melchior et Balthazar. Donc, d'après les évangiles, ces trois rois mages sont venus à Bethléem guidés par une étoile. Melchior a offert de l'or, Balthazar de la myrrhe et Gaspard de l'encens. Donc, le conteur Francis Desilets va raconter leur belle histoire et Jacques Lacourcière en discutera d'un point de vue plus historique. L'activité a lieu donc le mardi 7 janvier de 19h30 à 21h30 et c'est au pavillon Catherine Crolo de la Maison Saint-Gabriel, donc Maison Saint-Gabriel à Montréal. Il y a des droits d'entrée de 15 $ et il faut réserver au 514-935-8136. C'est cette semaine qu'aura lieu le congrès de la Society for Historical Archaeology. Alors, cette année, le thème, c'est les enjeux prioritaires, une évaluation critique de l'archéologie historique au 21e siècle. C'est du mardi 8 au dimanche 12 janvier au Centre des congrès de Québec et à l'Hôtel Hilton de Québec également. Pour avoir toutes les informations sur ce congrès de la Society for Historical Archaeology, ainsi que le programme détaillé, on peut visiter le www.celat.ulaval.ca sous l'onglet « Actualité ». Le mardi 14 janvier, en soirée, aura lieu à Québec une conférence fort intéressante sur le thème des voyageurs d'Amérique. C'est un passionné d'histoire, doué d'une âme aventurière, M. Gilles Bédard, qui vient relater sa propre expérience. En fait, M. Bédard, il y a 35 ans, a suivi les traces de Radisson et de Desgroseilliers, rien de moins, jusqu'à la baie d'Hudson. Il a franchi 800 km en canot. Hein, figurez-vous, le trajet, c'est assez incroyable. Par la suite, il a parcouru de nombreuses rivières du Canada, un peu à l'image de ces voyageurs qui s'adonnait au commerce des fourrures au 18e et 19e siècle. Alors, cette conférence-là sur les voyageurs d'Amérique va être présentée par la Société historique de Québec le mardi 14 janvier à 19h15 au couvent des Sœurs de Saint-Joseph. Ça, c'est dans l'arrondissement Sainte-Foy. Pour information, on peut composer le 418-681-7361 ou bien le www.sociétéhistoriquedequebec.qc.ca. Il reste plus qu'une dizaine de jours pour soumettre une communication pour participer à la Semaine de l'archéologie de l'Université de Montréal qui va se tenir cette année du 17 au 21 mars. Donc, les gens intéressés ont jusqu'au 15 janvier pour répondre à l'appel de communication. Pour trouver l'information, tout simplement, on peut aller sur Google avec les mots-clés « Semaine archéologie Université de Montréal ». Le 16 janvier aura lieu ici à Québec le premier café historique de l'année 2014, organisé par les services historiques 6 associés. Un café historique donc sur le thème « L'histoire vivante, le pouvoir de la transmission orale ». C'est avec Judith Douville, du Musée de la mémoire vivante de Saint-Jean-Port-Joli. L'événement est présenté en collaboration avec la revue Cap au Diamant. Ça aura lieu le 16 janvier à 19h30 à la Bibliothèque Saint-Jean-Baptiste sur la rue Saint-Jean à Québec. C'est gratuit, mais on demande quand même de réserver, donc si ça vous intéresse, au 418-641-6798. J'en profite pour vous reparler du plus récent numéro de la revue Cap au Diamant, justement, la revue d'histoire de Québec, qui était consacrée à l'interprétation et à la reconstitution historique. Ce numéro, qui compte 8 articles, est assez intéressant. Je dirais qu'il y en a deux qui m'ont particulièrement interpellée. Le premier, ça s'appelle, est intitulé plutôt « Mettre l'histoire en image ». C'est un entretien avec l'illustrateur Francis Bac, dont le travail soigné est très bien connu dans le milieu de l'histoire au Québec. Donc, ces images à M. Bac sont très documentées et servent à donner vie à des scènes du passé. des scènes, bon, faut le dire, qui demeuraient parfois un peu abstraites si c'était les seuls mots des historiens qui pouvaient essayer de les évoquer. Donc, notons que Francis Bach est le fils du célèbre dessinateur Frédéric Bach, l'artiste qui est à l'origine de L'homme qui plantait des arbres et qui est malheureusement décédé récemment. Le second article de ce numéro de la revue Capot-Diamant qui m'a vraiment intéressée est consacré à l'archéologie expérimentale. Il est signé Jean Bellil, qui est professeur d'histoire de l'art à l'Université Concordia. Donc, c'est un article qui relate les péripéties entourant la construction par ses étudiants d'une maison longue iroquoise et d'une maison viking. Rien de moins, donc une expérience hors du commun. De quoi saisir vraiment la réalité d'une habitation ancienne. Et je veux aussi mentionner un autre article qui porte sur la survivance des races patrimoniales québécoises, à savoir le cheval canadien et la vache canadienne, un article qui est signé par l'historien Mario Gendron. À lire donc dans la plus récente livraison de la revue Capot-Diamant, qu'on peut trouver en kiosque à plusieurs endroits à Québec et aussi en bibliothèque. Je vous rappelle que vous pouvez toujours communiquer avec moi pour m'informer de vos activités à saveur historique. Vous trouverez la page de l'émission « Tu parles d'une histoire » sur Facebook ou par l'entremise du site web de CKIA au www.ckiafm.org. Alors, pour se mettre dans l'entrain, parce que je vous rappelle que notre thème du jour, c'est le carnaval, on va y aller avec la chanson, ma foi, emblématique du Carnaval de Québec, dans sa version de 1956, interprétée par Pierre Étroit, donc « Carnaval ».
À Québec, ça commence royalement, car le grand et joyeux déploiement des tambours, des trompettes, des brillants que l'on voit dans les vrais couronnements. Carnaval, la vie, carnaval, à Québec, c'est tout un festival. Chacun fait des tas de choses plus banales. C'est un site des femmes pour un bal. Vieux corset à baleine, nous les balles. Carnaval, mardi gras, carnaval. À Québec, c'est tout un festival. Carnaval, mardi gras, carnaval. Chantons tous le joyeux. Dans les rues, en parade, nous marchons. Travestis dans les clubs, nous dansons. Fête de nuit sur les murs, nous voyons. Carnaval, mardi gras, carnaval. À Québec, c'est tout un festival. Carnaval, mardi gras, carnaval. Chantons tous le joyeux carnaval. Championnat ou gala de mardi gras. Nous prenons nos débats et voyons de partout le Canada à courir pour chanter qu'il en a. Carnaval, mardi gras, carnaval. À Québec, c'est tout un festival. Carnaval, mardi gras, carnaval. Chantons tous.
Alors, vous venez d'entendre la chanson du Carnaval de Québec, interprétée par Pierre Étroit en 1956. Une chanson, je pense, qui fait immédiatement écho à ce qu'on va parler aujourd'hui, ce dont on va jaser maintenant avec M. Jean Provencher. Bonjour, Jean Provencher.
Bonjour, Catherine. 1955.
55? Ah, oui. Mes sources étaient inexactes. Merci de la correction. Et également avec Marjorie Champagne, qui est bien connue grâce à ses activités avec la Revengeance des Duchesses. Bonjour, Marjorie.
Bonjour.
Alors, on va avoir le plaisir aujourd'hui de jaser Carnaval dans toutes ses dimensions et notamment, évidemment, les Duchesses. Alors, j'aimerais d'abord vous entendre, M. Provencher, sur votre parcours de chercheur. Comment vous en êtes venu à vous intéresser à l'histoire du Québec, puis éventuellement à l'histoire du Carnaval? Vaste question, n'est-ce pas?
Oui, hein? Vous m'avez averti que je n'avais que 2 minutes et demie.
Top chrono.
On va y aller. J'ai une formation, comme vous d'ailleurs, en histoire à l'Université Laval. Hein, j'ai une maîtrise. Puis j'ai travaillé, mon Dieu, 5-6 ans au gouvernement. Hein, là, mais en 77, je suis parti à mon compte. Travailleur autonome en histoire. Ce que je recommande et ne recommande pas à qui que ce soit. Ça serait trop long d'en parler. Et depuis ce temps-là, moi, je remplis des mandats en dehors de faire mes propres ouvrages là, personnels. Puis voilà, là, j'ai beaucoup publié. Puis,
Et qu'est-ce qui vous a amené à travailler comme chercheur à l'histoire du Carnaval de Québec?
Ben, c'est justement un des mandats, c'est que le Carnaval était pour fêter son 50e anniversaire en 2003. Et la commission de la Capitale-Nationale, un peu comme il y avait passé la commande pour l'histoire de l'Orchestre symphonique, mm-hmm. il y a toute une collection hein, publiée par la commission de la Capitale-Nationale sur des organismes de Québec et sans doute qui avaient été approchés par le Carnaval pour avoir un ouvrage. Et là, la commission m'a appelé pour dire « Jean, c'est-tu quelque chose qui t'intéresserait? » Ben, je dis « Ouais. » Mettons. Ben, j'étais hésitant au début, tu sais, parce que, bon, le Carnaval a porté beaucoup de choses sur ses épaules au fil du temps, bonnes mm-hmm. et mauvaises, mais j'ai dit, donnez-moi une semaine, puis j'ai vu que les archives étaient conservées à la ville de Québec, hein, au quatrième étage de Gabriel de Roy. Puis j'ai joué un peu là-dedans, j'ai dit, quelle richesse. Mm. Tu sais, puis c'est vraiment nous autres, là, tu sais.
Oui, oui.
Fait que là, j'ai rappelé la commission, j'ai dit, oui, je m'embarque. Hein, fait que c'était un des beaux mandats, d'ailleurs, que j'ai eu depuis 35 ans.
Uh-huh.
Bon, en tout cas, je calcule plus les années, là, mais. Ouais,
le
ouais.
plaisir de se plonger avec bonheur dans les archives.
Ouais, surtout ouais, j'ai beaucoup,
archives,
beaucoup aimé.
Ah, c'est intéressant.
Ouais.
Et toi, Marjorie, j'aimerais t'entendre sur ton propre parcours. Toi, t'es pas une chercheuse en histoire, mais t'es quand même liée au Carnaval et on pourrait dire à son histoire récente d'une certaine façon. Parce
ouais.
que...
ouais, je suis pas une historienne, mais je cherche beaucoup. Je cherche beaucoup de choses et je doute beaucoup. Mais bon, pour ce qui est du parcours, si on parle d'études, j'ai étudié en enseignement des arts, plastique et arts dramatiques. Et finalement, je fais de la radio, de la réalisation télé, donc de la chronique radio. Donc, je suis dans les médias. Et puis, ben oui, il y a le projet aussi de la revengeance des Duchesses, en fait, qui prend beaucoup, beaucoup de place dans mes réflexions, dans ma vie, dans les gens que je fréquente. Donc,
et Marjorie a été directrice, entre autres, de la programmation à CKRL.
Oui, c'est vrai. Merci. Merci, Jean. Merci, Jean.
Donc, très impliquée, très connue dans le milieu médiatique et culturel de la ville de Québec. Et La Revengeance, c'est un projet que tu as porté, toi, à bout de bras au départ. C'est la sixième édition cette année?
C'est la cinquième.
Cinquième.
Donc, on célèbre cette année notre cinquième année. Et Jean Provencher, d'ailleurs, est le porte-parole du cinquième anniversaire. Et là, il lève les bras dans les airs. Victorieux. C'est moi. Donc, ouais, c'est ça, c'est la cinquième année. Au départ, on était deux, donc François Mercier ainsi que moi-même, qui était cofondateur du projet. Maintenant, le projet réunit 30 bénévoles. Si on inclut les Duchesses de cette année, ça fait 37 personnes
quand même, hein,
qui travaillent vraiment bénévolement à chaque année, qui mettent beaucoup, beaucoup d'heures dans ce projet-là. Et souvent, je me questionne à savoir, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on s'investit autant? Et pourquoi ça rassemble autant de gens pour qui ce projet-là, justement, il est rassembleur? Mais il y a toute une cause derrière, il y a toute une ambiance derrière, il y a tout un cheminement que les gens font. C'est pas une secte, là, mais il y a quelque chose de plus...
C'est un catalyseur, hein,
c'est un catalyseur
d'énergie.
Il y a quelque chose de plus grand que seulement s'amuser, faire le party, puis faire les folles.
Uh-huh.
Et, sinon, je pense que ça pourrait pas réunir 40 personnes mm-hmm. ou 30 personnes qui travaillent là-dessus à l'année longue. Ben, pas à temps plein, mais quand même, il y a quelque chose de plus grand puis de plus fort que juste faire le party.
Ah.
Ouais.
Mais là, t'es pas mal modeste parce que, dans le fond, t'as été honorée récemment pour ton implication au niveau social et notamment pour la revengeance.
Mm-hmm.
Je sais que t'avais été reçue ici même dans les studios de CKIA par un collègue pour justement souligner cette reconnaissance-là à l'Assemblée nationale.
Ouais. ça fait partie de mon parcours, ça. Non, mais je suis très fière de ça, là. J'étais vraiment surprise, en fait. Ouais, c'était pour l'implication sociale et bénévole, un organisme. Ben, c'est le Forum Jeunesse, en fait, le mm-hmm. secrétariat, qui est chapeauté par le secrétariat à la jeunesse, qui, justement, célèbre l'implication bénévole des citoyens et citoyennes de moins de 35 ans, de 35 ans et moins, puisque j'ai 35 ans.
Uh-huh.
Donc, c'était la dernière année où je pouvais être éligible. mais oui, j'ai reçu un certificat de la main de Léo Bureau Bluin
ah.
lui-même qui m'a ouais voilà donc ouais j'ai gagné ça un prix, félicitations. Un prix d'implication citoyenne bénévole, puis je trouve que ça a bien du sens.
C'est une belle reconnaissance.
Oui, 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 absolument.
Ça fait du sens par rapport à ce que je suis puis ce que je fais, là. Uh-huh. C'est le fun, des fois, un petit cadeau, là.
Oh oui, une petite tape dans le dos, ouais, certains, ouais. On comprend ça. Mais félicitations, c'est vraiment une reconnaissance méritée.
Merci.
Alors, avant de plonger dans notre sujet du jour, vraiment dans les profondeurs de l'histoire du Carnaval de Québec, on va continuer à se mettre en train avec une autre pièce qui est encore là, intimement liée à l'histoire du Carnaval. La pièce « Salut, bonhomme », interprétée par Yves Lambert lors de l'ouverture du 50e anniversaire du Carnaval de Québec en 2004.
Salut, bonhomme, salut, bonhomme, salut, bonhomme, carnaval. On peut tourner comme une pomme, un pompe-don monumental. Salut, bonhomme, salut, bonhomme, salut, bonhomme, salut, bonhomme. C'est toi notre homme, bienvenue, bonhomme, vis notre bonhomme.
Salut, bonhomme! Vous êtes toujours à Tu parles d'une histoire. Catherine Ferland avec vous jusqu'à 14h. Vous venez d'entendre donc une autre des pièces emblématiques du Carnaval de Québec, Salut, bonhomme, interprétée par Yves Lambert en 2004. Alors, je vous rappelle que nous sommes en compagnie aujourd'hui de Jean Provencher et de Marjorie Champagne. Pour ouvrir un peu plus la question de l'histoire du Carnaval, je vais d'abord m'adresser à vous, Monsieur Provencher, sur le contexte du Carnaval de Québec. Donc, moi, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu des origines du Carnaval de Québec. Quels en étaient les promoteurs? Quelle était la visée derrière ce carnaval, cette grande fête hivernale?
À la fin des années 40, il y a le 1940 à Québec. C'est une saison qui est vraiment très... deux tiers de la population active est en chômage. Tu sais, c'est vraiment... Économiquement, là, c'est le creux de l'année là, pendant trois mois. Et Léo Paré, qui est à l'Office municipal du tourisme, se dit faudrait créer un événement à Québec pour faire venir du monde, puis créer de la joie. Puis,
requinquer un peu.
Requinquer la ville, puis que le peu d'argent qu'on a, qu'on le réinvestisse dans l'économie de la ville. Et là, Hic s'est battu, le pauvre gars. Il a approché Duplessis, Maurice Duplessis, qui était président, premier ministre, et, mon Dieu, il a frappé à sa porte pendant deux ans pour finalement se faire dire qu'il y aurait quelque chose comme 500 $ à lui donner.
Oh boy!
Fait que là, le pauvre Paré, là, il dit non, ça marche pas. Tu sais, bon, je peux ramasser le 500, mais tu sais, c'est pas, ça va prendre davantage.
On
n'ira
pas loin
que
ça. Avec
ça. Puis là, il a approché Léo Plamondon, je pense que c'est Léo Philippe, et qui était le propriétaire du restaurant Kérulu, sur le cours de la Fabrique, un des grands restaurants de Québec à l'époque, et du manoir de Saint-Castin, à Beauport.
Oui. Uh-huh.
Donc, Paris s'est dit, il va y voir son intérêt, tu sais, avec des clients à son restaurant, et éventuellement des skieurs à Beauport, puis là, Paris, il dit, génial, waouh. Il dit, on ameute le milieu des affaires. Puis finalement, là, je coupe. Hein, ça a été plus... Mais au printemps 54, ils réussissent à réunir une trentaine d'hommes. Il n'y a pas de femmes encore.
Ça en vient.
Et là, ils ont convaincu. Ils ont dit, on va se revoir au mois de septembre. Il faut imaginer un carnaval pour l'an prochain, 1955, tu sais. Puis ils sont venus en septembre, puis les gens ont embarqué, puis ils ont nommé Paré et Plamondon. Ils ont dit, retirez-vous pour un mois, puis préparez-nous une charte du carnaval, un document, une grande réflexion. Et moi, c'est moi qui appelle ça une charte, là, parce que j'ai vu manifestement que c'était une charte. Quand tu regardes le document qu'ils ont produit, tu vois apparaître la reine du carnaval. Tu vois apparaître, tu sais, l'effigie, à l'époque, on appelait ça un tag-dé. Il y a différentes choses, mais leur coup de génie, c'est la création de Bonhomme.
Mm-hmm.
Et on l'espérait animateur de la fête, donc avec don de parole.
Ce qui est assez peu fréquent dans le domaine des mascottes. Hein? C'est un cas assez unique,
je pense. Il n'y a pas de mascotte qui parle, ou à peu près. Là, c'est vraiment c'est une série de signes, là, comme le gars qui était à côté de Mandela. tout mêlé. Non, et en plus, ils écrivent noir sur blanc, on va en prendre soin de cette mascotte, de cette... Non, le carnaval ne veut pas parler de mascotte, c'est un personnage. Ah, puis ils tiennent à l'expression encore aujourd'hui. Hein?
Mm-hmm.
Et nous, plutôt que de le brûler, comme dans tous les carnavals, la dernière journée, un carnaval se termine, c'est un bonhomme de paille, en fait, hein? Fait qu'on le met dans
c'est vrai, traditionnellement.
On le brûle, on le met sur le bûcher, on met le feu, et allez hop, on passe à une nouvelle année. Nous, on a choisi de l'envoyer je ne sais pas où, au pôle Nord, peut-être avec le Père Noël, ou je ne sais trop. Mais, chose certaine, on va en prendre soin de ce bonhomme-là. Et on précise que son vêtement doit être extrêmement simple et défendre de mettre de la publicité sur son costume,
tu sais,
parce qu'il serait devenu comme le petit Villeneuve, hein, un homme sandwich, littéralement, hein, avec mille et une annonces de toutes sortes de commanditaires. Donc, ça aussi, c'est un coup de génie parce que c'est un bonhomme de neige qui est très, très simple au fond, hein, avec du rouge, du blanc, puis un peu de noir pour les boutons.
La ceinture fléchée qui rappelle
le passé du Québec. Donc, ça a été vraiment leur coup de génie. Puis finalement, ça a démarré. Les 30 autour de la table ont acheté ça. Ils ont créé un pote, tu sais, parce qu'il fallait commencer à démarrer de quoi, prévoir des chars allégoriques, tu sais, et...
une grosse organisation, quand même, hein,
ça a été géant. Puis moi, je dis, je vois aujourd'hui, c'est parce que le carnaval a franchi certaines crises, hein, puis il savait pas qu'il se mettait la main dans le tombeur. il créait à Québec, un événement qui a été vraiment très aimé, sur le coup. Mais quel défi au fil du temps.
Est-ce que... Je peux poser une question?
Oui, bien sûr. Vas-y, Marjorie.
Est-ce que l'idée de l'appeler carnaval, ça aurait pu s'appeler autrement? Est-ce que c'est pas paradoxal de... Si on pense au fait que le carnaval, d'habitude, c'est une fête qui est organisée par le peuple, alors que là, c'est une fête qui était organisée par les commerçants, qui font partie quand même de la population. Mais est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe, finalement? Est-ce que ça crée pas... un certain flou dans ce qu'est un carnaval, parce qu'on parle aujourd'hui du manque au niveau de l'appropriation de la population à son carnaval, alors que ce n'est pas tant notre carnaval que celui des commerçants, même à la base, même quand on parle historiquement parlant.
Oui, je comprends, mais historiquement parlant, le carnaval au Québec commençait le 7 janvier, au lendemain des Rois, et se terminait le soir du Mardi Gras. En fait, c'était les jours gras.
Mm-hmm.
Et là, on était en carnaval. Tu sais, il n'y avait pas d'organisation comme le Carnaval de Québec, par exemple, de trucs très... Tu sais, il y avait... sur les patinoires de la ville, on avait des mascarades. Tu sais, mais tout ça, c'était pas réuni. On était en carnaval. Tu avais des compétitions de courses de chiens, de courses de raquettes, mais disparates, là, chacun de son bord. Là, tu sais. Donc... Le mot lui-même appartenait effectivement, au peuple. Et c'est un mot qui remonte pour la première fois dans le duché de Bouillon, en 1268. Pour la première fois, on voit apparaître le mot « carnival », Q-U-A-R-N-I-V-A-L-L-E. C'est en fait, c'est en lien avec... Le
fait de manger de la viande.
Le fait de manger de la viande.
Mm-hmm.
Ça va devenir du temps de Jacques Cartier et de Champlain carnaval, et c'est au 17e siècle que le mot va être vraiment fixé, la graphie moderne, carnaval.
OK. Et le fait de renverser l'ordre établi aussi, il y a ça là-dedans, hein, le carnaval. Là, je ne veux pas étaler mes connaissances parce que j'en connais peu là-dessus, mais ça m'intrigue. Donc, c'est ça, renverser l'ordre établi, c'est un peu ça aussi, l'esprit d'un carnaval.
Oui, okay. Oui, oui. Puis là, on monte, encore plus loin, on remonte quasiment aux Romains, là, tu sais, où tu as une période de 2 semaines dans l'année qui coïncide souvent, qui commence avec le jour de l'an ou à peu près, où là, pendant 2 semaines, le roi devient l'esclave et l'esclave devient roi. t'sais, à Rome, là, t'sais. Et le pouvoir doit tolérer les excès pendant 2 semaines. Mais c'est sûr qu'après 2 semaines, là, il siffle la fin de la récréation. T'sais, mais c'est vrai que c'est un renversement des pouvoirs. Là. La définition, ça faisait partie effectivement d'un carnaval, d'une définition de carnaval.
Ouais. L'idée de ramener comme ça un carnaval d'hiver, parce que à la base, il y en a eu au 19e siècle des grands carnavals, des grandes fêtes d'hiver à Montréal, à Québec. Le fait que ça a été pendant un bout de temps complètement dans l'oubli et qu'on décide de réactiver ça, c'est assez particulier aussi. Est-ce qu'il y a des liens entre ces anciennes manifestations de carnaval-là qu'on voyait dans les années 1880 et tout ça, et celles qu'on voit surgir là, au milieu du 20e siècle?
Beaucoup, beaucoup. D'abord, les premiers carnavals, un peu comme on l'entend, le carnaval de Québec, c'était à Montréal, hein, au début des années 1880. Et là, pour des raisons de désintérêt et de conditions climatiques, ils n'ont pas maintenu parce qu'il n'y avait pas la neige voulue ou le temps froid voulu. Alors que Québec a repêché cette idée-là, parce que plus au nord et plus neigeux comme pays. Et là, on va imaginer, à partir de 1894, on va l'appeler Carnaval de Québec en 1894, grand événement avec course en canot, course de chiens, compétition de raquetteurs, monument au début de neige, puis 2 ans après, on va recommencer. Mais là, il va même avoir de l'opéra au programme à l'Académie de musique. Et là, le grand sculpteur, Louis Jobin, va sculpter des scènes, des personnages dans le Vieux-Québec en glace, littéralement. Donc, déjà, il y a beaucoup, beaucoup de tu sais, le carnaval de 1955, c'est beaucoup inspiré de ces activités-là.
Qui, elle, était dans ce carnaval-là était davantage populaire, si je comprends
bien. C'était sensiblement ce qu'on va connaître à partir de 1955,
Oui. C'est sûr que ça prend des promoteurs pour soutenir.
Oui, c'est ça. Ouais, mais je me demande, l'initiative venait de qui? C'est ça qui est intéressant.
Notable, je pense.
À Québec, c'est Franck Carrel, qui était propriétaire d'un journal, qui a toujours été très engagé, Carrel. C'est le fondateur du Club Automobile. Tu sais, aujourd'hui, on dit American Association, là, tu sais, mais en fait, le Club Automobile a commencé à Québec en 1907, et c'est Franck Carrel. Tu sais, c'est un gars très, très engagé, et c'est lui, en 1893, qui a ameuté les gens en disant, « Hey, les amis, il faut qu'on se donne un grand événement à Québec. »
Un grand événement d'hiver. Justement, avant de poursuivre, on va aller en musique avec une pièce qui a été créée spécialement pour le Carnaval de Québec. C'est une chanson de Martine Chantal et de Richard Sanson qui s'appelle « En amour avec l'hiver ». On l'écoutera pas au complet, on va en écouter un extrait, si vous le permettez. Donc, « En amour avec l'hiver ».
Québec enneigé, on sort prendre l'air tous ensemble pour se retrouver.
Le carnaval de Québec, c'est pour tout le monde. C'est notre fête à nous. En plein cœur de l'hiver, on y vient de partout pour se rougir les joues. Le carnaval de Québec, c'est pour tout le monde.
Le temps
En amour avec l'hiver, donc une pièce qui a été, je vous le rappelle, créée spécialement pour le Carnaval de Québec. C'est une chanson de Martine Chantal et de Richard Sanson. Donc, vous êtes toujours à l'antenne de CKIA 88,3. Merci d'être avec nous pour cette belle émission consacrée au Carnaval de Québec. Et on est toujours en compagnie de Jean Provencher, historien, et de Marjorie Champagne. Alors maintenant qu'on a abordé un peu les origines du Carnaval dans ses dimensions vraiment anciennes et même dans ses dimensions, bon, d'où c'est parti hein, dans les années 1950, peut-être qu'on peut jaser maintenant de son évolution. Comment ce carnaval, qu'on voulait vraiment une fête populaire, a évolué au fil du temps, dans la mesure où, bon, au gré des conjonctures économiques même, on a dû s'adapter à la demande de la population aussi. Donc, comment le carnaval a pu muter au fil du temps, là, depuis les années 1950 jusqu'à nos jours?
Vaste question. mon Dieu, quoi vous répondre dans le peu de temps? Est-ce qu'on a l'après-midi pour nous?
On a encore jusqu'à 14 heures.
Le carnaval s'est créé, oui, en 55, il y a eu une partance assez solide. On l'évoquait, les duchesses, la reine, bonhomme, des compétitions de ci, de ça, de raquettes, la course en canot qui a lieu dès 1955. Mais après, on va devoir, varier. C'est dur. Par exemple, en 1957, on se rend compte que les grands magasins qui étaient en dessous des chars allégoriques, mm-hmm. ont dit au carnaval, on a donné le coup, les amis, pendant 3 ans, mais après, maintenant, là, on vous laisse aller. Vous devenez des grands garçons, grandes filles, parce que nous, on n'a plus l'argent. Et là, le carnaval va débaucher coup de génie Gaston Robert, qui était l'étalagiste, le décorateur en chef de chez Paquette.
Oh oui, magasin Paquette.
Et qui faisait, lui, le défilé du Père Noël. Il faisait des défilés de la Saint-Jean-Baptiste. Donc, il y avait une connaissance de la notion de défilé. Et là, il va faire les chars allégoriques pendant 28 ans au Carnaval de Québec. Ah, génial. Moi, j'ai rencontré le monsieur à l'époque. Oui, oui. Puis, il me disait, hey, monsieur Provencher, c'était pas facile, hein, parce qu'il dit, les commanditaires, ben, c'était un commanditaire de bière, il voulait une bouteille.
Ben, forcément.
Sur la plateforme. Commanditaire de char, il voulait le char de l'année sur la plateforme. Puis il dit, là, il fallait que je les convainque que c'était une fête, c'était pas une...
Un défilé publicitaire.
Ben, non.
Ouais, c'est
ça. Et puis j'ai dit, monsieur Robert, qu'est-ce qui a marché invariablement, que vous mettiez, vous disiez pas aux gens, mais que là, ils nous mettaient à genoux, littéralement. Il dit, monsieur Provencher, les dragons.
Les dragons?
Ah, il dit, les dragons, de quelque forme que ce soit, ça séduisait encore plus que le bye-bye de cette année. Tu sais, c'est vraiment... Puis il dit, si en plus on pouvait lui faire cracher du feu, là, c'était le bonheur des gens. Tu sais, c'était vraiment... J'ai tellement aimé, j'ai passé une demi-journée à lui poser des questions, M. Robert. Bon, il y a eu ça. On s'en rend compte en 58 que le milieu des affaires ne met pas d'argent là-dedans. D'ailleurs, au fil du temps, je ne sais plus où il en est aujourd'hui, mais ça a été très dur que les gens d'affaires versent, même s'ils retrouvaient leur profit, hôteliers, restaurants et tout. Ça a été un problème. Fait que là, ils vont créer l'arrivée de la bougie.
Ah oui, comme moyen de financement.
Comme moyen de financement. Mm-hmm. Il fallait vraiment qu'ils cherchent une porte quelconque. Puis le gouvernement disait, ben c'était encore Duplessis. Hein, Duplessis va mourir à l'automne de 59. Donc, il n'était pas question qu'il aille puiser dans les poches de Duplessis. On va créer la bougie et on va pousser les duchesses à vendre la bougie.
C'est intéressant.
Ça se précise.
C'est là que ça commence à être intéressant.
Parce qu'avant, les duchesses, parce qu'on va y revenir un peu plus tard en émission, mais jusqu'alors, leur rôle dans l'organisation, qu'est-ce que c'était? Décoratif?
Ils vendaient des tags des effigies, en fait, là. Et c'est celle qui avait vendu le plus grand nombre d'effigies quand arrivait le moment du couronnement, qui était nommée reine, littéralement. Ah, oui. D'ailleurs, cette année, j'ai bien hâte de voir comment ils vont s'en tirer. Mm-hmm. Est-ce qu'ils vont tomber dans les mêmes ornières? Parce que après 2 ou 3 ans, c'était comme une éjaculation précoce. C'est-à-dire que tu remplissais le Colisée avec des musiciens, des ci, des ça, de la danse. Puis là, les gens étaient venus au Colisée pour le couronnement de la reine, mais il n'y avait pas de... je trouve pas le terme rapidement, de build-up, tu sais,
de progression
dans ta soirée, tu sais, pour exciter les gens un peu. Puis là, les un moment donné, là, pas vite, après 3 ou 4 ans, les gens partaient du Colisée puis ils étaient pas contents, tu sais, parce que ça avait comme tué le craquage, la frénésie, tu sais. Uh-huh. Donc, ça a été ça. Le plus beau carnaval, parce que j'entendais cette année Jean-David qui disait « Oh, ça va être le plus beau carnaval. » Il est mieux de se chausser parce que c'est 1960. Là, c'est vraiment... Ah oui. Puis d'ailleurs, ça a été un constat dans le journal après coup. Climat idéal. Pour la première fois, il y a un premier ministre du Québec qui va être là pour l'inauguration. Tu sais, il y a une reconnaissance. Les frères Lachance remportent encore une fois la course en canot. Ils vont gagner les 12 premières courses qui venaient justement de l'île aux canots. Tout concorde, le derby de chiens pendant 3 jours à l'époque. Hein, les chiens partaient, il y allait virer. C'était à 130 km. Hein, wow. Je veux dire, c'était sur 3 jours la course. Uh-huh. Puis après, il rentrait à la grande estrade qu'on vient de démolir pour l'aréna du maire Labeaume, oui. L'amphithéâtre. Mais puis là, la grande stade est prête, pleine, avec annonceurs qui disent « Regardez-les venir! Oui, c'est Émile Martel de Loretteville qui est en tête! Wow. » Puis les plus grands meneurs de chiens venaient courir à l'époque. Puis M. Martel, moi, j'ai rencontré ses enfants. C'était vraiment... J'ai tellement aimé. C'était un monsieur qui était employé municipal de la ville de Loretteville. Puis lui, il adorait les chiens. Puis il ramassait les chiens que les gens ne voulaient pas. Tu sais, les meneurs de chiens, « Ah, donne-moi-les, moi, je vais faire de quoi avec lui. Mm-hmm. » Puis il arrive, il y avait tellement, ses enfants me disent, et puis les chiens vivaient avec lui, hein, ils vivaient comme été dans le cours, fait qu'il était à portée des enfants. Puis il y avait tellement un bon comportement qu'il arrivait vraiment à faire de chiens bâtards, entre guillemets, une merveille. Il a gagné beaucoup de courses, M. Martel, tu sais. Puis là, on s'en va, mais Catherine, hein, l'horloge s'en va aussi.
Oui. On voit le temps qui continue d'avancer. Mais donc, il y a vraiment une évolution dans les activités.
Mais il y a eu des crises, hein, des passages à vide. Ah oui, je disais 1960, c'est la création de la rue Sainte-Thérèse, la rue des Monuments. Mais tu vois qu'à la fin des années 60, début des années 70, déjà une lassitude.
Une lassitude de la population qui embarque moins ou...
Voilà. Tu sais, à temps répété, on s'habitue à tout, hein, même en amour. C'est bien, bien dommage, d'ailleurs. Moi, je trouve la maudite habitude qui fait qu'on perd le charme. Ce qui nous attachait devient quelque chose qui nous énerve. Et là, le carnaval, c'est pour ça que je dis quel défi qu'il y avait en 55. Puis même encore aujourd'hui, moi, c'est un job que je voudrais pas avoir à faire. Hein, parce que le carnaval est condamné, après 60 ans, à renouveler ce qui est...
T'sais, à se réinventer tout le temps.
À se réinventer. À un moment donné, il y a une limite, puis on est rendu dans le numérique aujourd'hui. À l'époque, on était à voiture à cheval, en 1955. Fait qu'on est, comme plus là. Mais moi, j'ai pas de recette. C'est pour ça que je voudrais pas être au carnaval sous conseil d'administration, parce que... Puis là, ils vont jouer la nostalgie.
La nostalgie,
un bout de temps.
C'est une carte maîtresse, mais...
Ouais, mais quelle maîtresse? Limite, hein? Est insatiable, la nostalgie, hein, je veux dire. Puis à un moment donné, on la rejette. Autant on a crié pour la ravoir, la nostalgie, autant on va la botter. Tu sais, puis très rapidement, parce qu'on va se dire, ah, merde. C'est comme coucher avec une fille avec qui tu n'as plus envie de coucher depuis une éternité ou je sais pas quoi, là, tu sais. Fait que t'as pas beaucoup de respect. Fait que, tu sais, c'est un moyen défi, là.
Effectivement, ça doit être assez lourd de penser, là, les gens qui sont vraiment dans l'idéation autour de qu'est-ce qu'on fait au niveau de la formule et tout ça. Mais bon, comme on le sait, le carnaval, c'est une grande fête d'hiver. Alors, avant de poursuivre, on va écouter une très belle pièce de Gilles Vigneault. Je l'avoue, je me fais plaisir. La pièce « Mon pays ». Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Donc, une pièce de Gilles Vigneault de 1965.
Ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin. c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Dans la blanche cérémonie où la neige au vent se marie, dans ce pays de poudrerie, mon père a fait bâtir maison. Et je m'en vais être fidèle à sa manière, à son modèle. La chambre d'amis sera-t-elle quand viendra des autres saisons pour se bâtir à côté d'elle. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon refrain, ce n'est pas un refrain, c'est rafale. Ma maison, ce n'est pas ma maison, c'est froid dur. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. De ce grand pays solitaire, je crie avant que de me taire à tous les hommes de la terre. Ma maison, c'est votre maison. Entre ces quatre murs de glace, je mets mon temps et mon espace à préparer le feu, la place pour les humains de l'horizon et les humains sont de ma race. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'envers d'un pays qui n'était ni pays ni patrie. Ma chanson, ce n'est pas ma chanson, c'est ma vie. C'est pour toi que je veux posséder mes hivers.
Très belle pièce de Gilles Vigneault, vous l'aurez reconnu. Donc, mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Vous êtes toujours à l'antenne de Tu parles d'une histoire. Catherine Ferland avec vous pour encore une quinzaine de minutes en compagnie de mes invités de la semaine. Donc, Monsieur Provencher, historien et on pourrait dire spécialiste d'histoire du Québec et notamment du carnaval, et Marjorie Champagne. Et on en vient enfin à la tranche de gâteau que tout le monde attendait ici en studio, la question des duchesses. Donc, les duchesses qui occupent beaucoup de place médiatique ces jours-ci, surtout avec le fait que l'organisation officielle du carnaval a décidé de ramener cette tradition-là. Mais avant d'en venir là, on peut jaser ensemble justement de le sens qu'on prêtait autrefois à cette activité-là versus son sens plus contemporain. Alors, puis qu'est-ce qui fait aussi qu'on a cessé de tenir cette activité-là des duchesses au sein du carnaval? Marjorie, je te vois qui tripping sur ta chaise.
J'ai tellement de choses à dire, il faut que je mette de l'ordre dans tout ça. Mais quand on parlait des débuts là, des duchesses, là, 1955, on voit l'apparition justement de cette formule-là qui est rattachée au sport aussi. Hein? On parlait beaucoup de sport au début du carnaval de Québec.
Donc oui, les femmes, des reines, hein? La reine du curling,
oui.
La reine de,
ouais. Ah oui, c'est la dimension performance. Elle faisait partie d'équipes sportives. Donc, elles étaient sélectionnées à partir du fait qu'elles étaient sportives, ce qui est quand même pas pire. Mm-hmm. Et donc, je sais pas en quelle année ça a été abandonné, ça, cette manière-là d'aller rechercher la femme ou les femmes.
Quand on a créé les duchés en 58,
okay. Ah.
On va diviser la région de Québec en duchés. Okay. Et là, le sport importe pas, là, tu sais.
OK. Et donc, on choisit à partir de ce moment-là les duchesses à partir d'autres critères qui semblent être flous. Le seul document sur lequel je peux me fier, qui est assez, qui est un document d'auteur, c'est le film Le Soleil a pas de chance, de Robert Favreau. Et oui, c'est ça, Jean aimait,
a l'air. C'est dubitatif.
C'est parce que c'est un point de vue d'auteur qui ménage vraiment pas l'organisation du carnaval. Et donc, est-ce que, je veux dire, c'est un document réalité, donc c'est du documentaire réalité, donc on n'a rien inventé, on était témoins sur place, on a monté ça. Donc, bref, à partir de quels critères on choisissait les duchesses à l'époque? Il y a tellement de différents avis là-dessus. Est-ce que c'était l'apparence? Est-ce que non, c'était ce qu'elles avaient à dire? Est-ce que c'était la présentation? Est-ce que c'était la représentation? Est-ce que c'était le fait de bien s'exprimer? Est-ce que c'était le fait d'être une gente dame? Est-ce que c'était le fait de... Bon, il y en a, il y en a, il y en a. Moi, j'ai fait mes petites recherches là-dessus. Il y a des choses qui sont choquantes, faut le dire. Il y a des choses qui sont choquantes. Peut-être que ça se rapportait à l'époque dans laquelle on se situait aussi.
Ouais, forcément.
Ça a quand même duré longtemps, 55 à 95, si je ne me trompe pas, ou 96?
Oui.
Je suis pas bonne quarantaine d'années, hein, quand même.
OK. Donc, oui, et la formule a su évoluer, je le crois, mais Mais j'ai des doutes parce que j'ai des gens, des femmes qui m'ont avoué qu'elles ne se sont pas senties bien dans ce contexte-là du Carnaval de Québec. Il y a des femmes qui ont été exclues parce que, par exemple, elles avaient trop de caractère. Et là, c'est pas moi qui l'invente. Je me suis fait dire ça par une femme qui est allée poser sa candidature pour être duchesse dans les dernières années. Là, on parle des années 90. Et la réponse qu'on lui a donnée, c'est que tu as trop de caractère. Et donc, tu n'es pas assez malléable. Et moi, ça, c'est le genre de truc qui me fait peur.
Oui, ça fait bondir.
Voilà. Donc, ça existe, ça a existé. Ce sont peut-être des cas isolés, mais selon moi, ça ne devrait jamais se reproduire. Mm-hmm. Maintenant, on peut dire que, on peut donner la chance aux coureurs pour ce qui est de la nouvelle formule des duchesses du carnaval que le carnaval a mis de l'avant pour mettre la nostalgie encore une fois au premier plan parce que le carnaval fête son 60e anniversaire. On parlait avec Jean Ordon de tout à l'heure pendant la chanson. Que la nostalgie, c'était quand même assez dangereux, là. Mm-hmm. Une espèce de nostalgie romantique. Ça fait qu'on n'avance pas beaucoup. Donc, je suis rendue là. Je suis rendue là dans mes réflexions. Avez-vous des questions?
est venu en 2009 ce qu'on appelle la revengeance des duchesses.
Revengeance, parce que le mot a fait bondir. Bon, il y a eu plein de puristes qui ont dit, mais c'est un mot qui n'existe pas et tout ça. Mais à la base, c'est quelque chose de très irrévérencieux. Vous vouliez faire ça pour justement redonner une place aux femmes dans l'organisation du carnaval. Mais au-delà de ça, beaucoup à ces femmes-là comme individus pour un espace de liberté puis de création à la base, je pense.
C'est un projet qui s'est bâti de façon très instinctive, un peu comme un projet artistique. On ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. Il y a des choses qui sont entrées en nous depuis des années, c'est-à-dire soit des discours de nos parents. Tu sais, la création, là, c'est quand même complexe, là. Mais bon, moi, ça a vraiment été un processus pour moi qui s'est bâti comme un processus de création artistique. Je ne savais pas vraiment au début ce que je faisais. C'était vraiment de l'instinct pur et simple. Donc, on recrée les duchesses. Donc, on a des amis de filles qu'on admire, des femmes qu'on trouve belles, qu'on trouve fortes. On se dit, elles peuvent représenter quelque chose qui m'anime. Elles peuvent me faire grandir. Donc, elles peuvent devenir duchesses. T'sais, c'est un peu ça. T'sais.
Et ici, la notion de caractère prend tout son sens parce que c'est très valorisé.
C'est là que ça devient intéressant. La différence est intéressante. Autant dans le physique, même que le physique, on s'en fout, là. Je veux dire, ça fait même pas partie des critères de sélection parce que, d'ailleurs, Jean a fait partie du jury de cette année pour sélectionner les duchesses. Et vraiment, il est là pour le prouver, là.
Oui.
Il y a aucun critère physique. On ne s'admet même pas d'aller voir sur Facebook parce que ce serait facile d'aller voir des photos, là. On se l'interdit d'aller voir des photos des femmes qui posent leur candidature parce qu'on trouve ça super important de pas se laisser influencer par ça. Et on parle de beauté, mais on peut plutôt pas de beauté, mais plutôt d'apparence physique. Mais il y a aussi, tu sais, toute l'espèce de dynamique de ça prend une belle personnalité, là. Mm-hmm. Ça, c'est un peu mentir aux gens, je pense, là. Ça fait un peu partie du mensonge.
Ça intervenait pas, ça, non plus.
Non, c'est ça. Nous, c'est vraiment, tout est basé sur le contenu. Est-ce que cette personne-là a quelque chose à dire? Est-ce qu'elle peut bien parler de son quartier? Parce que ça reste qu'on veut parler des quartiers de Québec, mettre en valeur...
Animer les quartiers.
Oui, hein, puis c'est... mettre en valeur ce qu'est notre ville et lui donner, ou plutôt mettre au grand jour son identité par quartier. Donc, tout est là. Puis, ben c'est ça. Fait que, en tout cas, le projet, c'est un blog, là. On n'en a pas parlé pour les gens.
Travailler avec le numérique.
C'est ça. Nous, on travaille avec le numérique. C'est ça. Donc, on s'est dit au départ, comment est-ce que ces femmes-là pourraient parler, pourraient s'exprimer? On part un blog. Mais, à un moment donné, je me suis dit, ouais, ben c'est parce que... C'est pour dire que c'est évolutif, ce projet-là, là, parce que la réflexion s'est faite aussi sur 5 ans puis continue à se faire. À un moment donné, je me suis dit, ouais, on a été chanceuses parce que... Grâce au numérique, on a pu se servir d'une plateforme qui faisait que ces femmes-là pouvaient parler. Mm-hmm. Et ce contenu-là pouvait être rendu accessible à tous assez facilement. Ce qui, à l'époque, était moins le cas parce qu'il n'y avait pas ces plateformes-là. Mais c'est pas vrai! On aurait pu le faire. On aurait pu leur faire faire un journal papier, à la limite. Mm-hmm. On aurait pu, au lieu de leur mettre les mots dans la bouche quand elles font des entrevues radio ou télé, on aurait pu leur donner
les duchesses anciennes moutures, là, effectivement.
Ouais, je parle ancienne mouture.
Ben oui.
Aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qui se passe, j'ai aucune idée. Mm-hmm. Est-ce qu'on leur met les mots dans la bouche? Elles ont des cours de communication?
Est-ce que c'est orienté, ça?
L'important, c'est d'être large dans une proposition, puis d'ouvrir plein de portes puis plein de possibilités. Si on voit ça comme des œillères, si on met des ornières, puis si ça marche plus, on brime la liberté des gens et donc la liberté de la femme.
Mais ne serait-ce que déjà la limite d'âge, parce que je sais que ça fait bondir certaines personnes, et ça, à la revengeance, si je ne me trompe pas, c'est pas du tout un critère d'exclusion d'aucune façon. La preuve, je crois, c'est que vous avez deux sages parmi vos duchesses.
C'est belle. Quand je dis belle,
c'est des belles personnes.
Quand je dis belle, c'est que ce sont de belles personnes. Mm-hmm. C'est important de le mentionner, là, parce que des fois, il y en a qui me revirent de bord. Ah, t'as dit belle! Bon, ben là, calme-toi.
Faut être allergique aux mots non plus.
Non, c'est ça, belle personne. Mm-hmm. Lise Bonenfant, qui représente le quartier Montcalm et qui a 66 ans.
Uh-huh.
Et Joanne
Merdouille. Qui a travaillé pendant 30 ans Vidéofemme. Hein?
Oui, exactement. Ah. Oui, Lise Bonenfant. Oui. Et Joanne, qui représente le Vieux-Québec, qui a 55 ans.
Mm-hmm.
Donc, ce sont de belles duchesses, ce sont de belles femmes. Parce que pour moi, le mot duchesse maintenant, là, c'est femme.
Mm-hmm.
C'est la revengeance des femmes. Ça s'est transformé comme ça. Au début, c'était effectivement très duchesse, relié au carnaval. Là, c'est vraiment rendu une réflexion qui est plus large, qui parle de la liberté de la femme, qui parle de la femme qui s'assume, de la femme qui a peur aussi, encore, malheureusement, de s'assumer. Donc, on est là, nous, pour donner une tape dans le dos, une tape dans le dos, puis dire, regarde, t'as besoin là, d'avoir un groupe, peut-être, pour t'émanciper ou pour te pousser à faire des choses que t'as jamais faites, puis pour grandir.
C'est une rampe de lancement.
C'est une rampe de lancement, carrément.
Et depuis 4 ans, ça a eu ses effets. Hein? Moi, je faisais remarquer à Marjorie, je veux dire, en tout cas, on pourrait nommer une série de noms de filles, de femmes qui ont été... dans la revengeance, hein, et qui sont créatrices aujourd'hui, ça n'a pas de sens.
Ouais,
hein,
ben c'est sûr que...
Ça a donné une poussée dans le dos, hein.
À des filles, c'est que nous, on est vraiment ancrés dans la création, là, par rapport au carnaval. Je veux pas dire que pour le carnaval n'est pas non plus une rampe de lancement pour ces duchesses. C'est une rampe de lancement qui est totalement différente.
Mm-hmm.
Nous, on est vraiment dans ce qui est de la création. On fait de la vidéo, on fait de la photo,
du vêtement, tu sais.
On s'inscrit dans les domaines plus artistiques. Le carnaval, avec sa nouvelle formule, s'inscrit dans une optique plus entrepreneuriale, mm-hmm. ce qui est complètement différent.
Oui. Donc, tout en jouant quand même sur cette fameuse nostalgie dont on parlait.
Oui, oui. Donc,
reste à voir s'il y aura de la place pour tout le monde. On le souhaite dans cet écosystème assez particulier qu'est le carnaval. Mm. Mais dans la mesure où, justement, la revengeance a un peu réouvert la voie à ce type d'initiative-là féminine, ben en tout cas, souhaitons que vous puissiez, Marjorie et toute ton équipe, tirer votre épingle du jeu, que les médias s'intéressent à vous parce que, justement, y a de la vie là-dedans, ça bouge. C'est certainement pas canné, excusez l'anglicisme, par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres milieux. Là.
Ouais. Ben, oui, je pense qu'on a encore notre place. Là. Par rapport aux médias, on verra. Là. Je veux dire, on va faire tout ce qu'on peut pour attirer l'intérêt médiatique, mais l'intérêt médiatique, après, il faut qu'on dise les bonnes choses. Là. C'est toujours un peu touché, là, ce qui sort de là. Mais les gens qui suivent le projet, puis qui s'y intéressent, puis qui prennent le temps de lire, puis qui prennent le temps de venir à nos événements, parce qu'on est en dehors du blog aussi, hein, on mm-hmm. fait un lancement, bon, tout ça, lancement en couronnement.
Oui, je pense qu'il y a une activité même ce soir.
Mais c'est vrai, il faut quand même que je plug mes trucs.
Oui, vas-y, ma chère.
Ce soir, on a justement une soirée de financement au bar Le Sacrilège, qui est situé sur la rue Saint-Jean, 447. À 8 heures. Et on boit de la bière. Et il y a 75 sous par pinte de bière qui revient à l'organisation de la revengeance des duchesses pour continuer nos activités.
Ah, ben c'est formidable. On vous souhaite un beau succès là-dedans. Alors, je vous remercie, Jean Provencher, Marjorie, Champagne. Je vous souhaite bonne suite par rapport à vos domaines respectifs, que ce soit dans la recherche en histoire culturelle du Québec ou la revengeance et tous ces beaux projets-là. C'était formidable de vous avoir à l'émission aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci. Merci.
Alors, pour aller à la prochaine émission, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Catherine Ferland, comme toutes les semaines, à Tu parles d'une histoire. Gérald Aoué à la mise en onde. Donc, pour aller à la prochaine émission, quelques instants peut-être d'une pièce qui est amusante, qui est aussi, elle, très irrévérencieuse, qui s'appelle « Maudit hiver » de Dominique Michel, de 1979. Bye-bye tout le monde!
Ah, comme la neige a neigé, la vitre est un jardin de givre. Dans la blanche cérémonie où la neige au vent se marie, mon père a fait bâtir maison. Vienne l'hiver en manteau de froid, vienne l'envers des étés du roi. Ah, que les temps ramènent l'hiver. Comme c'est beau, hein? Mais moi, voyez-vous, j'aime dis l'hiver, maudit hiver, les danseurs et les mégères, c'est les patriotaires. Chaque hiver, maudit hiver, chez nous l'hiver c'est comme le hockey, il y a des finales.
Devenez membre de CKIA FM, soutenez votre station de radio communautaire et profitez des rabais réservés à nos membres.
Sur présentation de leur carte, les membres de CKIA FM obtiendront 50% de rabais au Café Babylone sur un verre de vin chaud en hiver ou un verre de sangria en été. Limite d'une consommation par visite. Le Café Babylone, c'est une invitation au voyage. Rendez-vous au 181 rue Saint-Vallier-Est.
Permettez-nous de continuer à vous en mettre plein les oreilles et profitez d'offres chez nos commerçants partenaires. Pour seulement 20$, devenez membre de CKIA FM en visitant le www.ckiafm.org.
Alors, madame, est-ce que ça faisait?
Oui, mais je vais prendre juste le chemisier.
Donc, le chemisier. En plus, je vous donne un jeans, une veste cintrée, la jupe, un cardigan.